Bonjour. La paracha Vayeler, qui comporte un seul chapitre, a pour thème central le passage de relais de Moïse à Josué, la veille de la mort de Moïse. Trouver un successeur à sa hauteur n'allait pas de soi, et celui-ci, une fois désigné par l'Éternel lui-même, nous le verrons, il faut encore le faire accepter par un peuple indocile et prompt à la rébellion. C'est ce à quoi va s'employer Moïse, guidé par l'Éternel, dans ce chapitre à la structure très complexe. Avant de l'analyser, je vais vous parler longuement de Josué. Tout d'abord, pourquoi est-ce Josué qui succède à Moïse ? Selon le Midrash, Moïse avait longtemps espéré que ses fils lui succéderaient. Pourtant, bien avant l'épisode des explorateurs, Eldad et Médad avaient prophétisé dans le camp et selon Sanhédrin 17a, ils annonçaient que Moïse allait mourir et que ce serait Josué qui les ferait entrer en Canaan. Josué, très humble, en était tout confus et voulait les faire taire. Le peuple, quant à lui, le trouvait bien jeune pour affronter des ennemis puissants et bien armés. Rachi rapporte que, selon certains, le garçon qui courut l'annoncer à Moïse n'était autre que son fils aîné, Gershom, lequel découvrait, à ce moment, ne pas être digne de succéder à son père. Nous verrons plus loin pourquoi. À la fin de la vie de Moïse, l'Éternel le fait monter sur le mont Abarim pour contempler de loin le pays et lui annonce qu'il mourra après l'avoir vu. Alors, Moïse demande que l'Éternel, Dieu des esprits et de toute chair, institue un chef sur cette communauté qui marche sans cesse à leur tête et qui dirige tous leurs mouvements, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau sans pasteur. Nombre 27, 16-17. Il pense bien sûr à l'un de ses fils. Mais la réponse de l'Éternel est cinglante. « Kach lecha Yehoshua bin Nun, fais approcher de toi, Josué, fils de Nun, ish asher roar bo, homme animé de l'esprit, ve samarta et yadecha alav, et tu imposeras ta main sur lui. » Pourquoi cette exclusion des fils de Moïse ? Selon la Mechilta, quand Moïse est retourné en Égypte après avoir reçu sa mission au buisson ardent, il a enjoint à sa femme Tsipora de retourner chez son père Yitro à Midian avec leurs enfants pour les préserver des douleurs de l'esclavage. C'est Yitro qui les lui ramènera bien après la sortie d'Égypte. Gershom et Eliezer n'ont donc pas participé à cet événement fondateur de la nation. Et même, selon l'une des chronologies postulées par les commentateurs, ils n'auraient pas non plus assisté au don de la Torah, ni donc prononcé avec tout Israël, « Naase venishma, nous ferons et nous entendrons ». Elimin commente, « Ils n'avaient donc ni la connaissance, ni la crainte de Dieu suffisante pour pouvoir prétendre à une succession spirituelle et politique. » Exit les fils de Moshe. L'épisode des 12 explorateurs marque un tournant capital. Suite au rapport négatif de 10 d'entre eux, jugeant irréalisable le projet de prendre possession de la terre, le découragement du peuple est puni par la mort au désert de tous les hommes âgés de 20 ans et plus. L'Éternel déclare en Nombre 14:30 « Il n'y aura d'exception que pour Caleb, fils de Yéphouné, et pour Josué, fils de Noun. » En effet, alors que tout le peuple pleurait et se soulevait contre Moïse et Aaron, Caleb et Josué affirmaient leur foi en disant « Si l'Éternel nous veut du bien, il nous fera entrer dans ce pays et nous le livrer. Il saura nous faire entrer dans ce pays et nous le livrer, ce pays qui ruisselle de lait et de miel. » Nombre 14, 8. Outre ce mérite, Caleb et Josué sont donc les deux seuls, au moment d'entrer en Canaan, qui ont eu l'expérience personnelle de l'esclavage, de la libération et de la révélation. Et nous savons dans notre tradition qu'on ne peut aller vers l'avenir qu'en prenant appui sur le passé. Caleb est le représentant de la tribu de Yehuda et Josué de celle d'Éphraïm. On trouve ici en filigrane les deux futurs royaumes d'Israël au nord, Éphraïm, et de Juda, puisque Caleb s'établira à Hébron. Et aussi la tradition selon laquelle deux messies se succéderont. L'un de la maison de Joseph, donc Éphraïm, le Mashiach ben Yosef, et l'autre de la maison de Juda, le Mashiach ben David. Mais nous n'en sommes pas encore là, et selon la loi, il fallait deux témoins pour attester de leur vision positive du projet. De ces deux justes, qui ont tous deux prouvé leur loyauté au risque de se faire lapider par leur peuple, pourquoi n'est-ce pas Caleb qui succède à Moïse ? Caleb a pour lui d'être de la famille de Moïse, puisqu'il est le mari de Myriam, selon Sota 12a. Il est aussi le père de Hur, qui s'est opposé à la faute du veau d'or et a même été assassiné à ce moment-là. Et il est aussi l'arrière-grand-père de Betsalel, qui a dirigé les travaux du Mishkan. Peut-être est-ce son âge qui l'a fait écarter, car il nous apprend en Josué 14:7, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer ce pays. C'était 38 ans avant notre paracha. Caleb a donc 78 ans au moment de la mort de Moïse, ce qui d'ailleurs n'est pas cohérent avec la tradition selon laquelle il aurait épousé Myriam, puisque Myriam avait au moins 5 ans de plus que Moïse, donc Caleb devrait friser les 125 ans. Caleb apparaîtra cependant dans le livre de Josué comme l'un des 12 chefs de tribu prenant possession de la terre au fil de l'épée. Mais nous allons voir que Josué a encore davantage de mérite. La fiche de poste à laquelle doit correspondre le successeur de Moïse requiert des qualités opposées. Il doit être un chef de guerre, puisqu'il va devoir chasser les 7 peuplades d'habitants Canaan. Et il doit aussi connaître à fond la Torah, au nom de laquelle va se faire cette conquête. C'est quasiment la quadrature du cercle. Mais Josué a déjà fait ses preuves dans ces deux domaines. Il apparaît dans le récit de la Torah juste après la sortie d'Égypte, quand les Hébreux sont attaqués par Amalek. Vous savez que la première mention d'un nom ou d'un mot dans la Torah est toujours très significative. Nous lisons en Exode 17:9, Moïse dit à Josué, dont on entend parler pour la première fois, « Choisis des hommes et va livrer bataille à Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de cette colline, la verge divine à la main. » Josué jouit donc déjà de la pleine confiance de Moïse, tant pour son discernement, sa capacité à choisir des hommes, que pour ses compétences militaires, pour mener une guerre dans laquelle se joue rien moins que la survie d'Israël. C'est l'Éternel qui combat pour Israël tant que Moïse garde son bâton levé, mais il n'en reste pas moins que sur le sable, la bataille fait rage. Josué s'acquitte scrupuleusement de sa mission. Et nous lisons en Exode 17:13, « Vayahalosh Yoshua et Amalek vetamo le fir harev. » Josué triompha d'Amalek et de son peuple à la pointe de l'épée. Déjà se noue, au verset suivant, le lien intime entre Josué et le livre. L'Éternel dit à Moïse, « Ketov zot zikaron ba sefer » écrit ceci en souvenir dans le livre, « Vesim beozne Yeshua et mets aux oreilles de Josué, ki macho emre et zehre Amalek mitarat ha-shamayim, que je veux effacer tout souvenir d'Amalek de dessous les cieux. » Nous pouvons pressentir dans ce « mets aux oreilles de Josué » que l'Éternel a déjà des plans d'avenir pour lui. Nous retrouvons Josué la deuxième année de la sortie d'Égypte, accompagnant Moïse qui monte sur la montagne recevoir les tables de la loi, en Exode 24-13. On le trouve ici, et ce sera presque toujours le cas ensuite, désigné comme serviteur de Moïse, Mesharet Moshe. Et c'est le même mot qu'on emploie pour le service du temple ou pour les anges du service, les Malachei Hasharet, comme nous le chantons le vendredi soir dans le Shalom Aleichem. Selon la tradition, la prérogative accordée à Josué par rapport aux anciens et même à Aaron repose sur le fait qu'il fréquentait Moïse et se mettait personnellement à son service de manière ininterrompue. Rabbi Shimon bar Yochai affirme dans Berachot 7b que ce dévouement au service des sages de la Torah est plus méritoire même que l'étude. Rashi en rabat un peu sur cet éloge. Je cite, « Je ne sais quel rôle joue ici Yehoshua. Je pense que le serviteur a accompagné le maître jusqu'à l'endroit qui marquait les limites de la montagne, n'ayant pas le droit de les franchir. De là, Moshe est monté seul vers la montagne d'Élohim, tandis que Yehoshua y a planté sa tente et y est demeuré tous les 40 jours. Nous lirons en effet, quand Moïse redescendra, Josué entendit le bruit du peuple dans sa clameur. Exode 32, 17. D'où nous apprenons qu'il n'était pas avec eux, avec le peuple. » Fin de citation. Il est essentiel que Josué ait ainsi été absolument étranger à la faute du veau d'or. Il est là comme un éclaireur qui alerte Moïse sur un événement qu'il ne comprend pas encore. En entendant les clameurs du peuple, Josué s'écrie des cris de guerre au camp. Selon Rashi, Josué pensait qu'une bataille avait éclaté dans le camp d'Israël entre les fidèles à Dieu et les mécréants. Aussitôt, Moïse répond, ce n'est pas des cris de triomphe, ni des cris annonçant la défaite, ce sont des cris de blasphème. Et Rashi continue, je cite, « Moïse se disait en lui-même, un homme qui va être à la tête de 60 myriades de Juifs ne sait pas discerner entre une voix et l'autre. Le chef responsable doit savoir discerner les moindres nuances parmi les voix qui s'élèvent du peuple. » Fin de citation. Moïse semble donc, d'après ce Midrash, avoir la prescience que Josué va lui succéder un jour, mais toutefois douter de ses capacités. Il le reprendra une autre fois vertement lors de la prophétie d'Eldad et Médad, quand Josué se posera en gardien de l'orthodoxie en s'exclamant « Mon maître Moïse, empêche-les !» Moïse répond à sa rigueur par de la magnanimité. Tu es bien zélé pour moi, ah, plût au ciel que tout le peuple de Dieu se composa de prophètes. Ce zèle extrême devait être tempéré par des qualités de réflexion et de sagesse acquises dans la longue fréquentation de la loi. Rabbi Menachem Mendel de Kotzk remarque que le successeur de Moïse est nommé peu après l'épisode dans lequel Pinchas fait montre de son zèle pour l'Éternel en transperçant Zimri accouplé à une princesse idolâtre. Et le rabbi de Kotzk demande pourquoi ce n'est pas Pinchas, le héros du moment, qui est choisi pour succéder à Moïse. Il répond que quelqu'un de trop zélé ne peut pas être un bon dirigeant. Et le rabbin Jonathan Sacks souligne que cette fonction exige patience, modération et respect des règles. De toute façon, Pinchas était Cohen et notre tradition insiste toujours sur la nécessaire séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Or, à ses qualités de chef militaire et de serviteur zélé, Josué ajoute celle de Talmid Chacham, de disciple de Moïse dans l'étude de la Torah. Nous lisons en Exode 33:11 « Umesharto Yehoshua bin Nun Nahar lo yanish mitoch haoel » et son jeune serviteur Josué fils de Nun ne quittait pas l'intérieur de la tente. Cette tente, c'est la tente d'assignation dans laquelle Josué étudie assidûment auprès de son maître. Il semble en fait que ce soit là son plus grand mérite, comme il ressort d'un enseignement de Rashi d'après le Midrash Tanhuma. Je cite « Quand Moïse entendit l'ordre de l'Éternel donne l'héritage de Tselophrad à ses filles, il se dit « Le moment est venu de m'occuper de mes propres intérêts et de demander que mes enfants héritent de ma dignité. » Mais le Saint béni soit-il lui répondit, « Tel n'est pas mon dessein. Josué mérite de recueillir la récompense de sa fidélité pour n'avoir pas bougé de l'intérieur de la tente. » C'est ce qu'a voulu dire le roi Salomon en Proverbe 27:18. Notser teena yochal piria. Qui garde le figuier, mangera de ses fruits. C'est pour cette loyauté que Moïse a choisi Josué pour représenter la tribu d'Éphraïm et être l'un des 12 explorateurs. Nous apprenons à cette occasion que Moïse lui a changé son nom. Nombre 13:16. Moïse avait appelé Hoshéa, fils de Noun, Yehoshua. Le Targum Yonatan traduit et interprète « Quand Moïse vit la modestie de Hoshéa, il l'appela Yehoshua. » Et Rashi explique « Moïse a prié en disant « Veuille l'Éternel te sauver, Yoshiaha, du complot des explorateurs. » La lettre Yud, la première du tétragramme, jadis enlevée à Sarai comme un excès de virilité qui l'empêchait de procréer, lui est ajoutée comme un glaive porteur de la force de l'Éternel. Cette lettre, qui conjugue aussi les verbes au futur, donne un coup d'envoi vers l'avenir. Et Josué sauvera Israël face à tous ses ennemis. On ne sait pas exactement à quel moment Moïse lui a changé son nom, même si c'est indiqué au moment de l'épisode des explorateurs. Nachmanide, au contraire d'Ibn Ezra, pense que Moïse lui a changé son nom dès le début, en prévision de sa mission d'explorateur, mais l'a seulement alors rendu public. On peut aussi penser qu'il lui a donné ce nom avant de l'envoyer combattre Amalek, qu'il a vaincu le Fiharev avec son glaive. Ce glaive, toujours manié au nom de l'Éternel, lui servira plus tard à circoncire les Israélites juste avant le premier Pessah en Canaan. C'est dans Josué 5:3, et à conquérir victorieusement le pays. Nous avons vu que c'est l'Éternel lui-même qui a nommé Josué et cela va faciliter son acceptation par le peuple. De plus, Josué a été nommé devant le grand prêtre Éléazar qui vient de succéder à son père Aaron après la mort de celui-ci. Nombre 27, 19, 20. Tu le mettras en présence d'Éléazar le pontife et de toute la communauté, et tu lui donneras ses instructions devant eux. Tu lui communiqueras une partie de ta majesté, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël lui obéisse. Venatata merodecha alav, leman yishmeu koladat bene Israël. Rashi, d'après Yoma 73b, observe que Yehoshua a besoin d'Éléazar parce que le nouveau chef doit être reconnu par les Kohanim, le Sanhédrin et toute la communauté. Il exercera son pouvoir en collaboration avec Éléazar, comme il est dit en Nombre 27-21. Le pontife Éléazar interrogera pour lui l'oracle des Ourim devant le Seigneur. C'est à sa voix qu'ils partiront, à sa voix qu'ils rentreront. Arrêtons-nous sur cette transmission de majesté, ce Hod. Rashi explique qu'il s'agit du rayonnement de la peau de son visage. Vous vous souvenez qu'en redescendant de la montagne, le visage de Moïse brillait tellement qu'il avait dû se mettre un voile pour ne pas effrayer les Israélites. Mais Rashi précise, d'après Baba Batra 75a, qu'il ne lui transmet qu'une partie de sa majesté, c'est Mehodra, pas toute sa majesté. D'où nous apprenons que le visage de Moïse était comme le soleil et celui de Josué comme la lune. Josué est donc présenté comme un jeune disciple qui, comme la lune, reçoit seulement une partie de la lumière du soleil, Moshe. Selon Baya, chacun reçoit la révélation qui correspond à sa personnalité. Moïse a vu le divin comme on regarde le soleil, Josué l'a vu comme reflété par la lune. L'explication généralement donnée, d'après Elimank, est que les anciens étaient attristés d'apercevoir la dégradation de la nouvelle génération. Ils avaient compris que si l'éclat de Josué était moindre, c'était parce que le niveau du peuple était plus bas que celui de la génération précédente. Explication donc péjorative. Nous avions déjà rencontré la dualité lune-soleil, si vous vous souvenez, avec Jacob, lune, et Ésaü, soleil. Mais après avoir triomphé de l'ange tutélaire d'Ésaü, Jacob avait intériorisé une partie, quelque chose de la symbolique solaire. La rivalité fraternelle entre Jacob et Ésaü est réparée, d'après le Zohar, par la bonne entente entre Moïse, soleil, et Aaron, lune. Et la dualité lune-soleil change alors un peu de signification. Josué est comme Jacob, lune, un homme des tentes, Yoshev Ohalim. Pourtant, il a commencé à apprivoiser l'extraversion et surtout la violence solaire. Il s'est battu contre Amalek par totale loyauté et non par haine personnelle. Et de même, il combattra les sept nations de Canaan uniquement parce que l'Éternel le lui commande. Pendant la conquête, il sera même vaincre par le pouvoir de la voix, au contraire de Moïse aux eaux de Meriba, à Jéricho, où il ordonnera au peuple de se taire le temps qu'il fasse six fois le tour de la ville, et le septième jour, ils devront pousser des clameurs de guerre, et les murailles tomberont. C'est dans le livre de Josué, chapitre 6. D'ailleurs, il est à noter que le nom de Jéricho, Yericho, vient du mot Yareach, lune. Josué saura aussi se dresser contre la populace qui aurait voulu massacrer les Gabaonites. En Josué 9, 26. Et le soleil s'arrêtera dans sa course, à sa demande expresse, lui permettant de gagner la guerre contre les cinq rois. Josué 10, 12 à 14, montrant ainsi que les tendances opposées de la lune et du soleil se seront alors unifiées en lui. J'ai toujours été intriguée par la recommandation maintes fois répétée à ce Josué au courage sans faille, Chazak ve'ematz, sois fort et courageux, comme pour conjurer un risque d'affaiblissement. On trouve déjà le verbe lechazek à la forme piel au début du Deutéronome, quand Moïse rappelle à son peuple les paroles de l'Éternel nommant Josué pour lui succéder. Deutéronome 1,38. Josué, fils de Noun, qui est à ton service, c'est lui qui doit y entrer. Affermis son courage, oto chazek, car c'est lui qui en donnera possession à Israël. Et à nouveau en Deutéronome 3,28, donne des instructions à Josué, exhorte-le au courage et à la résolution, vehaskehu vehamtsehu, car c'est lui qui marchera à la tête de ce peuple. Mais justement, c'est au peuple qu'il rapporte ses paroles, et on peut penser que c'est pour le rassurer. Il ne suffit pas que Josué ait été désigné par l'Éternel, encore faut-il qu'il ait les moyens de gouverner, et pour cela Israël tout entier doit le reconnaître. C'est pourquoi Rashi souligne qu'il fallait que la passation de pouvoir ait lieu du vivant de Moïse pour éviter toute contestation du peuple. Et c'est aussi à cette fin que l'Éternel avait ordonné à Moïse de lui transmettre une partie de sa majesté, pour que, dit Rashi, il l'honore et le respecte comme ils le font pour toi. Moïse sait combien son peuple est indiscipliné et oublieux. Au moment de sa mort, une faction des princes aurait très bien pu, comme lors de la révolte de Korach, manipuler le peuple pour imposer un autre chef que Josué. Bien que celui-ci ait déjà été nommé en nombre 27, il faut donc donner toute sa solennité à son intronisation devant la communauté. C'est l'objet de ce chapitre, dans lequel s'entrecroisent en une savante progression des paroles dans différentes situations d'interlocution. Je vais les détailler un petit peu. Versets 1 à 6, Moïse parle à tout Israël et lui annonce que l'Éternel marchera devant lui pour déposséder ses ennemis et que Josué sera son guide. Là, c'est le peuple tout entier qui l'exhorte, « Chizku ve'emtsu, soyez forts et courageux ». Versets 7 et 8, Moïse s'adresse à Josué devant tout Israël et lui transmet son autorité. « Chazak ve'ematz, sois fort et courageux, car c'est toi qui entreras avec ce peuple sur la terre que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui leur en feras le partage. » Versets 9 à 13, Moïse parle aux Kohanim, aux Lévim et aux anciens et leur confie son enseignement qu'il a couché par écrit. Il leur donne la mitzvah du Hakel, la lecture publique de la Torah lors de la Shemitah. En effet, le pouvoir de Josué va s'adosser en permanence à la Torah. Le verset 14 marque un point de bascule. C'est maintenant l'Éternel qui parle à Moïse et lui ordonne d'aller avec Josué dans la tente d'assignation. Versets 15 à 21, l'Éternel, dans une colonne de nuée à la porte de la tente d'assignation, donc bien visible de tout Israël, parle à Moïse devant Josué et lui annonce qu'Israël abandonnera son Dieu et que lui-même cachera sa face. Il lui ordonne d'écrire le cantique qui va lui servir de témoin contre Israël, ce qu'exécute Moïse au chapitre 22, au verset 22, pardon. Pour Samson Raphaël Hirsch, il signifie ainsi à tous que la loi divine est éternelle et vaut de génération en génération, quel que soit son chef. Enfin, au verset 23, l'Éternel parle directement à Josué et proclame ainsi sa nouvelle autorité. Chazak ve'ematz, sois fort et courageux, car c'est toi qui introduiras les Israélites sur la terre que je leur ai promise, et moi, je t'assisterai. Un midrash raconte que Moïse et Josué sont entrés dans la tente d'assignation où une nuée les a séparés. Puis l'Éternel a parlé à Josué. Et ensuite, Moïse s'est approché de Josué et lui a dit « Qu'est-ce que t'a dit l'Éternel ?» Et Josué lui a répondu « Quand l'Éternel te parlait, est-ce que je venais pour savoir ?» Alors Moïse s'est tourné vers Dieu et a dit « Plutôt 1000 morts que la jalousie, maintenant je suis prêt à mourir. » Souvenons-nous que le mot « chazak » avait été utilisé par 10 des 12 explorateurs pour qualifier les habitants de Canaan, en nombre 13-31. Nous ne pouvons marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous, qui est chazak ou mimenu. Et Rashi avait montré, d'après Sota 35a, qu'on peut aussi lire ce verset comme « ce peuple est plus fort que Dieu ». À l'orée de la conquête de Canaan, ce même mot « chazak » vient donc prendre à contre-pied, terme à terme, leur vision défaitiste du projet divin qui a coûté 40 ans d'errance à Israël. De plus, l'expression « chazak ve'ematz » va toujours de pair avec le rappel que l'Éternel combat pour Israël. On peut donc la comprendre moins comme une exhortation à rassembler ses forces que comme une transmission de cette force, ce qu'on appelle une parole performative. Tu es fort, car je te donne cette force si tu es fidèle à ma Torah. C'est pourquoi on dit traditionnellement « chazak » à celui qui vient de lire dans le Sefer. Et bien sûr « chizki » si c'est une femme. Car c'est bien la Torah, recopiée par Moïse à la fin de Vayeler, élue en public tous les 7 ans, qui fonde la puissance au combat et le droit d'hériter de la terre. Josué, à la fin de sa vie, utilisera le même verbe pour affermir son peuple. « Vahazaktem meod lishmor velasot et kolakatuv besefer Torat Moshe » Vous vous attacherez résolument à observer et à pratiquer tout ce qui est écrit dans le livre de la Torah de Moïse. Josué 23, 6. Lui-même aura fidèlement servi, comme il est dit en Josué 11, 15, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse son serviteur, ainsi Moïse avait ordonné à Josué, et ainsi avait fait Josué, n'omettant aucun point de ce que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Josué nous donne ainsi une version du pouvoir qui illustre les paroles de Rabban Gamliel au moment où il nommait 2 sages à une fonction. Croyez-vous que je vous offre le pouvoir? Je vous offre l'opportunité de servir. Josué, serviteur de Moïse, Mesharet Moshe, aura ainsi l'insigne honneur d'être appelé serviteur de l'Éternel, Eved Adonai, titre jusque-là exclusivement réservé à Moïse. Et nous lisons en Josué 24, 29, Vayamot Yoshua bin Nun, Eved Adonai, Ben Mea Vaeser Shanim. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. Et on retrouve ce verset mot pour mot dans les Juges 2:8. Shabbat Shalom, Shana Tova, soyez tous inscrits dans le livre de vie.